Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à un autre épisode de Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez toujours aussi bien. Je suis très heureux de retrouver en studio aujourd'hui notre cher globe-trotteur philosophe Yves de Belval. Yves est bien placé pour nous parler de philosophie et de voyage. Il a vécu plus de 800 jours sur des chemins de Compostelle, de la Hongrie au Portugal, et totalise plus de 17 000 km de marche sur ces mêmes chemins depuis 2005. Alors bonjour Yves et merci beaucoup d'être de retour parmi nous pour marcher vers le bien-être.
Bonjour Denis.
Alors, Yves, en octobre dernier, vous avez lancé ici même une inspirante chronique intitulée « Les chemins et leurs vertus ».
Ah, merci.
Vous aviez consacré ces premiers volets à la simplicité, plus précisément à la simplicité matérielle, la simplicité mentale et la simplicité psychologique ou spirituelle. Nos auditeurs peuvent d'ailleurs réécouter ces premiers entretiens sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio VM, soit les épisodes 5 et 6 de la saison 2022-2023. Vous nous proposez aujourd'hui de compléter la présentation de la simplicité avec un dernier volet sur la parole et le silence, après quoi nous aborderons une deuxième vertu des chemins, la générosité. Auparavant, Yves, pourriez-vous nous rappeler brièvement votre définition de la simplicité et nous présenter les trois premiers aspects de cette simplicité, soit matérielle, mentale, psychologique ou spirituelle? D'abord, c'est quoi la simplicité?
Bon, la simplicité, si vous vous souvenez bien, c'est un résultat. Et c'est le résultat de la simplification. C'est la même chose en mathématiques. Hein? On part d'un nombre complexe et puis on le simplifie et ça donne un nombre entier, un nombre simple. Bon, alors ça, c'est important de comprendre ça, que la simplicité n'est pas là au point de départ. Puis elle ne serait peut-être pas là au point d'arrivée. C'est un idéal. Donc, on chemine vers la simplicité, oui. C'est-à-dire qu'on chemine vers le délestage. Ça, c'est un des mots-clés pour comprendre la simplicité. La réduction. Donc, la simplification, c'est ça. C'est vers moins et vers plus. Vers moins, par exemple, dans la simplicité matérielle, la première qu'on a vue, vers moins d'avoir.
Oui.
Et là, c'est presque une nécessité. C'est pour ça que je disais que dans la simplicité matérielle, on recherche le strict nécessaire, c'est-à-dire que c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que pour marcher, si j'essaie de marcher avec la garde-robe que j'ai chez moi à Montréal, oubliez ça, je n'avancerai pas. Je serai écrasé. Donc, il est nécessaire que je réduise. Mais on n'est pas encore dans la force de la simplicité parce que pour y être, il faut qu'elle soit volontaire. Il ne faut pas qu'elle soit imposée.
Voilà.
Il faut l'accueillir, il faut la rechercher, il faut la faire soi. Donc, la simplicité matérielle, c'est la réduction recherchée du nombre d'objets vers le strict nécessaire pour être capable d'avancer, pour être capable de cheminer.
Et la simplicité mentale?
Et la simplicité mentale, ben, c'est du même ordre. C'est aussi un délestage. Mais cette fois-ci, c'est le délestage de ce que j'ai en tête et non pas sur le dos. La simplicité matérielle, c'est la simplicité des objets que je porte dans le dos. Et cette simplicité-là, elle me pousse. Mais la simplicité mentale, c'est ce que j'ai dans la tête. Et qu'est-ce que c'est que j'ai dans la tête? Oh, ben, j'ai des attentes. Et puis aussi, ben, j'ai des images de moi-même, mais j'ai des préoccupations. Donc, par exemple, un exemple très simple sur la simplicité mentale, c'est à l'égard de la météo. Quel temps fera-t-il? Ben, on peut bien vous imaginer, Denis, que si je pars pour 90 jours de marche, il va faire à peu près toutes les températures. Donc, te casse pas la tête avec ça, c'est ce que je me dis. Te casse pas la tête avec ça. Tu as un poncho pour te couvrir au cas de pluie. Quand ça viendra, tu te couvriras. Donc, n'aie pas cette occupation double, pour utiliser une expression à la mode. N'aie pas cette occupation double, c'est-à-dire cette préoccupation et puis ensuite l'occupation. Donc, délaisse-toi de cette préoccupation. Quand ça viendra, tu géreras ça. Donc,
et la simplicité psychologique ou en fait spirituelle?
Bon, ben, j'utilise le mot psychologique ou spirituel, si on se souvient bien, presque comme des synonymes. Psychologique, oui. Ça vient de psyché, ce qui veut dire âme, spirituel, c'est l'esprit, etc. Donc, c'est tout ce qui a trait au fond à mon personnage, à mon faire-valoir,
oui.
À mon portfolio, etc. Et c'est ce qui a trait aussi au personnage que je perçois d'abord chez les autres. Donc, c'est l'attitude, la simplicité spirituelle ou psychologique qui fait que, au-delà de la manière dont il se présente, j'accueille l'autre sans masque, sans phare, sans artifice, sans stratégie, et je me présente de la même manière. Et le chemin favorise cela. Pourquoi? Parce qu'en chemin, il existe une égalité qui est fort différente de celle qu'on connaît dans notre vie courante où il y a des rôles, des tâches, des fonctions, des hiérarchies, etc. En chemin, là, tu peux pas jouer de rôle. Pourquoi? Parce que fais pas croire à l'autre que tu réalises grand-chose. Il fait la même chose que toi, il marche.
Excellent.
Donc, il y a pas ces jeux qui font là, et ça permet d'aller vers plus la profondeur de l'être, l'accueil de l'être de l'autre, l'accueil de son être à soi, et puis un peu comme dans une démarche à la Carl Gustav Jung, ce qu'on appelle la quête de soi, c'est-à-dire de la mise en présence des influences dont on a bénéficié aussi bien que celle qu'on a subie. Parce que parfois, on dit il a subi des influences. Oui, mais il a aussi bénéficié de certaines influences. Donc, oui. Dans la démarche vers la profondeur de soi, on retrouve ces influences-là aussi qui contribuent à plus d'être au-delà de plus d'avoir.
Alors, nous voilà rendus à la dernière composante de la simplicité, la parole et le silence. Alors, Yves, la parole est à vous.
Merci. Je commencerai par rappeler que certains chemins de Compostelle sont très fréquentés. Par exemple, le chemin du Puy-en-Velay, le Camino Francés ou les chemins portugais, ceux qui partent de Porto, entre autres.
Oui.
À l'opposé complètement de ça, vous avez des chemins qui sont très, très peu fréquentés. Moins d'une personne par jour en moyenne, donc comme la voie de Soulac, ou un peu plus fréquentée comme la voie des Piémonts, bon, ou un petit peu plus fréquentée encore comme la voie de Vézelay ou celle de Paris. Bon, donc il y a une grande variété de chemins, bon.
Et vous avez vécu sur tous ces chemins?
Oui, je suis passé par là et par plusieurs autres, de la Hongrie jusqu'au Portugal. Et au fil de ces chemins fréquentés, surtout ceux qui sont fréquentés évidemment, eh bien là, j'ai eu de nombreuses rencontres. On vient de partout dans le monde, là, marcher vers Compostelle. Alors, comment faire pour vivre ces rencontres? Mais la réponse est dans la simplicité, dans cette simplicité qui s'oppose à l'artifice, à l'astuce, à la ruse, au maquillage, là. Entre autres, les femmes qu'on rencontre sur les chemins de Compostelle sont très peu maquillées. Mais là, je parle des maquillages au sens général. Nous autres aussi, les hommes, nous avons nos déguisements. Alors, l'être simple se présente tel qu'il est. Et il se présente en quelque sorte vulnérable. Et c'est en négligeant les apparences, donc en devenant vulnérable, nu pour ainsi dire, en accueillant l'autre tel qu'il est, qu'une rencontre authentique peut s'établir dans le dialogue, dans une parole partagée. Donc, ce dialogue-là, que j'appelle la parole partagée, il va exiger des temps de silence et des temps de parole.
Donc, le dialogue exige des temps de silence.
Absolument, absolument. Le dialogue exige des silences et du silence. Mais le silence du dialogue, c'est pas un vide, là. C'est au contraire le lieu de l'accueil et de l'écoute attentive de l'autre. Donc, c'est un lieu plein, un lieu riche. C'est le lieu de ce que l'autre présente, de ce qu'il est dans cette présentation. Donc, ce silence de celui qui écoute dans le dialogue, et chacun à tour de rôle écoute l'autre, c'est la première forme d'ouverture. Et moi, je pense avoir constaté, sur mes chemins, qu'un des besoins les plus essentiels des humains que je croise est d'être écouté. C'est ce besoin d'être accueilli, d'être reçu. Et pour que ça soit possible, eh bien, la simplicité du silence est une des importantes conditions.
Mais il me semble que c'est une difficile simplicité dans un monde où la présentation du moi est populaire.
Absolument. Mais c'est davantage possible, et c'est pas automatique, mais c'est davantage possible sur le long chemin de Compostelle. Quand la parole surgit du silence, quand elle provient de la lenteur du silence, de la longueur du silence, parce que on a marché parfois pendant des heures avant de rencontrer quelqu'un, marché seul avant de rencontrer quelqu'un, quand elle surgit de la profondeur du silence, la rencontre de l'autre, la rencontre interpersonnelle naît et elle est davantage possible. Autrement, les rencontres risquent de ne pas dépasser le niveau d'une belle courtoisie. J'ai rien contre ça, là. Personne n'en veut à la courtoisie. Ça peut être le niveau des belles manières, d'un agréable commerce ou parfois aussi, et ça arrive, on ne peut pas toujours être dans la hauteur et dans la grandeur. Parfois, c'est la banalité. Mais s'il s'agit cependant d'une question qui se rapproche de l'essentiel d'une vie, ça pourrait être du genre posé par Anne Sylvestre quand, dans sa chanson, elle demande « Qu'est-ce qui te pousse, pèlerin, à être en chemin? Qu'est-ce qui te secoue pour que tu ailles là? » Et ça, c'est une question qui est fréquente chez les gens qui font Compostelle.
Est-ce qu'on peut dire autre chose du silence? Ou beaucoup.
C'est un paradoxe, parler du silence. Mais oui, on peut dire autre chose en le comparant au langage. Le langage est complexe. Hein?
Mm-hmm. Oui.
Apprendre à parler, chez nous les humains, c'est pas une chose simple. Mais le silence, lui, est simple. Mais pour le langage, là, Denis, il faut du vocabulaire, et un vocabulaire défini, donc ça prend un dictionnaire qui comporte les définitions. À défaut de quoi, on ne saura plus de quoi parle-t-on, là. On va être dans la confusion. Pour le langage, il faut aussi une grammaire, et puis je ne sais pas quoi d'autre encore, ben une syntaxe. Et tout cela et les autres éléments contribuent à la construction d'une langue. Et puis, pour en maîtriser l'usage, il faut des années d'apprentissage. Et Dieu sait comment ça devient ensuite difficile si on veut en apprendre une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Tandis que le silence, lui, est simple.
Oui.
Moi, là, je pense que le silence est une absence, mais c'est l'absence des mots articulés dans un langage. Autrement, le silence est une présence. À vrai dire, donc, au-delà d'être l'absence de mots, le silence est tout autre chose qu'une absence. Il est une présence à l'être des choses, ou à l'être des êtres, ou à l'être de l'être. C'est selon, là. Les gens qui vivent dans le silence utiliseront l'une ou l'autre expression, celle qui leur convient.
Alors, la question se pose, Yves, faut-il toujours se taire et ne faire éloge du mutisme?
Non. Le silence, mon silence à moi, tel que je l'entends, bien sûr que non, n'est pas l'éloge du mutisme. Pourquoi? Parce que toute parole est une tentative de rapprochement entre des êtres humains. Son niveau le plus substantiel dans la parole, c'est le verbe. Une phrase sans verbe, c'est une phrase insensée. Je prends un exemple. Je crayon. Bon, alors là, je vous vois, Denis, mais s'il n'y a pas de verbe, pour les auditeurs, je crayon, ça veut dire quoi? Eh bien, je tiens un crayon. Ah, le verbe donne le sens. Ou je te donne un crayon. Ah, c'est différent. Le verbe, c'est ce qui va donner le sens. Donc, la présence silencieuse ne recourt pas à la parole, mais dans la parole, on peut se tromper de sens. Tandis que dans la présence silencieuse à l'autre, on est toujours dans une situation qui est authentique. Donc, la présence silencieuse, elle est une présence authentique à la condition qu'elle soit accueillie. Parce que, attention, il y a des silences qui sont des manifestations d'indifférence et là, c'est tout autre chose. Mais les longues randonnées du pèlerinage à Compostelle favorisent l'exercice du silence pourvu qu'on s'y exerce.
Mm-hmm.
Pourvu qu'on, dans cet exercice-là, on essaie de faire taire le petit soliloque, là, la petite voix qui veut toujours se faire entendre en nous. Et cet exercice est donc comparable à ce que les anciens appelaient l'ascèse. Il comporte un délestage volontaire du langage ou une réduction du langage et du discours à l'essentiel. Donc, à ce moment-là, on arrive à quelque chose d'autre. Les autres formes de délestage et les autres niveaux de simplicité atteints par la marche, par le délestage et la simplicité matérielle, par la simplification des attentes que l'on a, donc ce qu'on a vu antérieurement, ou par le délestage des habitudes de vie quotidiennes, la familiarité. Ça, c'est quelque chose de particulier. La familiarité avec le dépaysement. En principe, le dépaysement, c'est l'étrangeté. Mm-hmm. Mais quand on s'y glisse vraiment, on devient familier avec le dépaysement. Autre chose, la recherche de la simplicité dans mes rapports avec autrui. Donc, tout ça, toutes ces formes des exercices de simplification, tout ça, ça rend davantage possible l'expérience de la plénitude du vide, de la présence à soi et de la présence à l'autre. Alors, tel est le silence à mes yeux sur les chemins dans sa plus riche dimension. Telle est la simplicité à mon avis, dans sa profondeur la plus grande, elle autorise, elle donne accès à la plénitude du vide.
Mais je pose la question encore, sur le chemin, il faut quand même parler pour rencontrer les autres, il faut parler pour prier, par exemple. Il faut parler quand même.
Pas toujours. Et là... J'aimerais, peut-être qu'on pourrait terminer avec ça, j'aimerais me référer à une expérience que j'ai vécue à mon premier chemin, en 2005. Bon, moi, je suis un croyant, j'arrive au monastère de Sainte-Foy de Conques après ma 10e journée de marche. Je suis, je pourrais dire, dans une paix profonde, même si en surface, là, il y a des agitations cérébrales. Et puis, c'est ma première expérience d'un chemin de Compostelle. Je suis au début d'un voyage de 3 ans autour du monde. Alors, comme la plupart des pèlerins qui passent par là à Conques, j'ai logé, comme je le disais, dans l'abbatiale avec des dizaines d'autres. C'est un site millénaire, majestueux, et j'ai pas pu m'empêcher de demander l'autorisation de séjourner une deuxième journée.
Mm-hmm.
En principe, je vois votre réaction là, Denise. En principe, les pèlerins de Compostelle avancent à chaque jour. Ils ne s'arrêtent qu'en cas de maladie.
Oui.
Moi, j'ai été l'exception à la règle. Et j'ai demandé de demeurer une deuxième journée et on me l'a accordé. Et là, le matin où je séjournais là pour entamer ma deuxième journée, il y a un prémontré, un membre de la communauté des prémontrés qui m'a demandé « Priez-vous parfois?
Mm-hmm. »
Et spontanément, j'ai répondu. Je réponds au silence. Ah, c'est ce dont nous parlons. Je lui ai dit « Je réponds au silence de Dieu par mon silence. » Et là, j'ai été comme moi-même surpris de ma réponse. Et savez-vous ce qu'il m'a dit?
Non.
Il m'a dit, c'est une prière authentique.
Oh!
Et là, je l'ai regardé et je n'ai rien ajouté, mais moi-même, je me disais, bon, voilà un homme poli, voilà un homme probablement complaisant. Des mois plus tard, sur mon voyage autour du monde. Je suis au Myanmar, à Amarapura. Là, je loge dans un monastère bouddhiste. Et là, j'ai un échange avec un moine. Et la conversation va glisser sur le silence et sur sa richesse. Et là, j'ai fait part à ce bouddhiste-là de mon bref échange avec le chanoine prémontré de Conque. Dans ces mots, le bouddhiste a rejoint le prémontré. Et il m'a dit, dans ses mots à lui, « Le silence est présence à la vraie nature de la réalité. » Ça, c'est l'expression bouddhiste du silence. Mais le prémontré avait raison aussi parce que j'ai découvert plus tard que dans la plus ancienne tradition chrétienne, il y avait ce qu'on appelait la prière de silence. Alors ça, j'ai été très étonné de voir cela, c'est-à-dire une prière où il n'y a pas de parole, il n'y a pas de recherche de parole.
Mm-hmm.
Et, oui. chez les théologiens du Moyen-Âge, donc chez les grands penseurs du Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, on était un grand penseur quand on était un théologien, eh bien, il y avait ce qu'on appelait la théologie négative. C'est-à-dire, ce qu'on dit, donc la parole de Dieu, il faut en dire le contraire, parce que ce qu'on dit, on le dit tellement à notre façon qu'on ne rejoint pas cette réalité-là. Et donc, il nous reste quoi? Le silence.
Merci beaucoup, Yves. Je crois que nous avons complété notre exploration de la simplicité. Nous prenons une courte pause musicale et au retour, nous abordons une deuxième vertu des chemins, la générosité. Nous sommes en compagnie de Yves de Belval, notre globe-trotter philosophe. Yves, que dire de cette deuxième vertu des chemins qu'est la générosité? C'est quoi la générosité?
La générosité, Denis, disons que c'est l'affaire des comptables, la vertu des comptables. Pourquoi? Parce que la générosité, elle tient tout entière dans le don, c'est sa première caractéristique. Le généreux, il donne. Mais elle tient dans un don qui est quantifiable. Donc, je donne un, deux ou trois de ceci ou de cela quand je suis généreux ou je reçois quand je suis l'objet de la générosité. Et puis ensuite, la générosité est désintéressée. Ce n'est pas un investissement. Quand j'investis, je veux avoir un retour. La générosité, je donne, ça ne m'appartient plus. Donc, désintéressement. Et quatrièmement, elle est orientée vers un indigent, quelqu'un qui est dans le besoin. On ne donne pas aux riches.
Mm-hmm. Alors, cela soulève la question, Yves. Quel est le rapport, ou plutôt, quels sont les rapports entre les chemins de Compostelle et la générosité?
La situation du pèlerin. Il faut revenir au pèlerin.
Ah, oui.
Le pèlerin, je l'ai déjà dit dans une présente chronique, c'est un étranger, c'est le sens même du mot. On n'est pas pèlerin chez soi, hein? On est toujours à l'étranger. Donc, c'est pas un gars ou une fille de la place, le pèlerin. Mm-hmm. Donc, c'est un kidam, un inconnu. Il fait pas partie de ceux chez qui il marche. Un pèlerin de Compostelle, c'est toujours un être de passage. Il vient de quelque part et s'en va ailleurs. Il n'a pas le temps de prendre racine. C'est un nomade, si vous voulez. Donc, un pèlerin ou une pèlerine, c'est un être qui est en situation de recherche, loin de chez lui, et souvent, le pèlerin avance en solitaire, et parce qu'il avance en solitaire, ben, il est une femme ou un homme vulnérable. Donc, à l'étranger, il suffirait de peu pour qu'il soit seul au monde. Donc, c'est un être dépourvu dans ce sens-là. Et puis, il est d'abord, c'est d'abord le corps qui marche, hein? C'est ça qui avance, mm-hmm. le corps. Et le corps avance avec tous ses besoins. Donc, les besoins les plus primaires, manger, boire, dormir, et aussi un irrésistible besoin d'être accueilli, d'être reçu. Ben, tout ça, là, ces besoins-là, sans une certaine générosité en chemin, eh bien, ils ne pourront pas être satisfaits.
Est-ce qu'on peut dire que leurs besoins matériels sont l'image de leurs besoins intérieurs, de besoins psychologiques ou spirituels?
Exact. Exact. J'ai fait mes premiers pas sur chemin de Compostelle au Puy-en-Velay. C'est le plus fréquenté des chemins de Compostelle modernes en France. Et puis, où est-on quand on est au Puy-en-Velay? Eh bien, on est en Auvergne. Alors, moi, c'est le matin du 14 août 2005 que je suis parti dans cette terre d'Auvergne. Et là, c'est bizarre, hein? J'avais dans la tête la chanson de Brassens qui s'appelle « Chanson pour l'Auvergnat ».
Ah oui.
Et puis, plus tard, parce que je la fredonnais, elle me revenait à l'esprit, je me suis aperçu que c'était un message sur la générosité. Qu'est-ce qui se passe dans cette chanson, vous souvenez-vous, Denis?
Non, je vous écoute, par exemple.
C'est bon. Eh bien, ce qui se passe, c'est un quidam qui parle. Oui. On ne sait pas c'est qui. C'est un inconnu. C'est un étranger. C'est comme un pèlerin. Et puis, qu'est-ce qu'il mentionne? Eh bien, il mentionne la générosité dont il a été l'objet. Brassens fait état des dons reçus par celui qui remercie. C'est l'étranger qui remercie. C'est le pèlerin. On dit le pèlerin n'exige rien. Et puis, il dit merci, c'est à cette image-là. La mise en scène, là, quantifie les dons dans la chanson de Brassens. Celui qui chante et remercie d'abord un Auvergnat pour 4 bouts de bois donnés quand il avait froid. Et la chanson dit « Toi qui m'as donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. » Bon, 4, c'est quantifié le don. Mm-hmm. Bon, 4 bouts de bois. Puis après ça, il y a une hôtesse. Elle était à toi, cette chanson. Toi, l'hôtesse qui m'a donné 4 bouts de pain. Bon, alors 4, encore une fois, c'est quantifié.
Mais c'est pas beaucoup, 4 bouts
non,
de pain.
Non, ça fait image. C'est pas beaucoup, si vous voulez, mais quand on est en manque réel, ça peut changer tout. Et on dit à propos du pèlerin, comme je vous le rappelle, que tout ce qu'il sait, c'est demander, ne pas exiger et dire merci. Et c'est ce que nous retrouvons dans la chanson « Pour l'Auvergnat » qui se termine par un remerciement adressé à l'étranger.
Oui. Alors, que faire, Yves, quand on reçoit des dons?
Ah, ben ça, c'est intéressant. L'aboutissement de la générosité, il n'y en a pas d'autre que la gratitude. La gratitude qui tient dans un seul mot, merci, ou, dans le cas de Brassens, dans une simple chanson. Elle est à toi, cette chanson, je n'ai rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux, je suis un chansonnier, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je ne peux pas te donner plus que ça. Alors, merci, ou la chanson qu'on donne, c'est tout pareil. Et la gratitude, c'est le seul aboutissement possible de la générosité.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain, quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri, lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Alors, la chanson de l'Auvergnat constitue une invitation à la générosité et à la gratitude, si j'ai bien compris. Avez-vous reçu d'autres invitations à la générosité et à la gratitude, justement, lors de vos chemins?
Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et je les trouve dans l'architecture. Dans l'architecture romane, entre autres.
Ah.
Oui. C'est des messages écrits dans la pierre au moment où on n'a pas l'imprimerie ou au moment où on s'exprime avec les moyens que l'on a, mais c'est des messages. Alors, l'architecture romane des 10e, 11e et 12e siècles, c'est là qu'on se situe avant l'architecture gothique. Ce sont des siècles du Moyen-Âge marqués par l'Apocalypse, par la fin des temps. Donc, on arrive à la fin des temps et là, c'est l'aboutissement de l'histoire avec un grand H. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va assister dans l'architecture romane à un jugement qu'on appelle le jugement dernier. Voilà, c'est la fin. Alors, bon, ben comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait un bon chemin? Avez-vous eu une bonne vie? Donc, les jugements derniers, c'est central dans l'architecture romane. On les retrouve à l'entrée des églises, des monastères. On les retrouve au-dessus de la porte centrale, celle qui donne accès à l'église. Et les styles et la disposition des personnages, ça peut bien varier là, d'un endroit à l'autre, mais on y retrouve presque toujours au centre un Christ en majesté.
Un Christ en majesté.
Bon, ce qu'on appelle dans l'architecture romane, dans l'art classique roman, un Christ en majesté, c'est le Christ de la fin des temps, le Christ glorieux. Et quel est son rôle? Son rôle, c'est le rôle d'un président de tribunal. Il préside au jugement dernier. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un tribunal siège? Eh bien, on va retrouver à ses pieds les gens, les humains qui défilent. Alors, il y a d'une part, à sa droite, ce qu'on appelle les élus, désignés sous le nom de bénis. Et je vais revenir sur cette expression, bénis. Et on retrouve aussi, à sa gauche, à d'autres humains qui, eux, apparaissent comme les maudits. Je vais revenir sur le mot maudit. Et puis, à travers tout ça, il y a des monstres extraordinaires. C'est des bandes dessinées formidables du point de vue de l'art qui dévorent les méchants. Et vous avez les bénis qui, eux, sont dans des attitudes de sérénité. Mais moi, j'aime beaucoup les monstres, Léviathan, là, le monstre Léviathan qui engouffre les méchants.
C'est une scène d'horreur.
Oui, c'est ce qu'on veut. C'est une scène d'horreur pour les maudits, mais comme je le disais, paisible pour les bénis. Les bénis, je reviens sur ça. Le mot, qu'est-ce que ça veut dire, les bénis? Ce sont ceux dont on dit du bien. Voilà. Donc, bénir, ça veut dire du bien de. Et maudire, ça veut dire du mal de. Alors, pourquoi est-ce que on arrive à dire celui-ci est maudit et celui-ci est béni? Eh bien, pour cela, il faut regarder quels sont les critères, sur lesquels repose le jugement. Et ça, c'est formidable. On va rejoindre Brassens, là, je vous le dis. Ou plutôt, pour respecter la réalité historique, Brassens rejoint cela. En quoi? Eh bien, les critères que l'on va retrouver n'ont rien de subjectif, ils sont objectifs. Et ces critères sont tous rattachés à la générosité. Et en quoi? Eh bien, on ne retrouve pas ça dans la pierre, mais c'est comme si il y avait derrière la pierre le message, donc un texte. Et pour les gens de l'époque, il y a vraiment un texte. Et ce texte-là, c'est comme le guide fondamental d'un bon chemin de vie. Et en quoi consiste-t-il? Il consiste à savoir si vous avez donné. Donc, on revient à la générosité qui est un don. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire du bien de toi? Pas parce que ça me plaît de le dire ou pas, mais parce que je reconnais donc que tu as bien agi. Et en quoi tu as bien agi? Eh bien, quand quelqu'un avait soif, tu lui as donné à boire. Quand quelqu'un avait faim, tu lui as donné à manger. Quand il était nu, tu l'as vêtu. Donc, tu as répondu par un don, tu lui as donné. Tu as répondu à l'essentiel du bon chemin de vie. Eh ben, j'ai pas le choix, je suis le juge. Et puis, comme j'ai un critère qui est le seul et qui est objectif, ben, t'as bien réalisé ton chemin de vie. Alors, je n'ai que du bien à dire de toi. Je te bénis. Je dis du bien. Eh bien, toi, t'as raté ton chemin, hein? T'as été complètement replié sur toi. T'as voulu tout posséder. Alors, tu t'es replié, ainsi de suite. Ah ben voilà, je ne peux pas dire du bien de toi, donc tu es maudit. Alors voilà comment c'était sur le chemin, comment je peux lire à la fois Brassens et ses réalisations artistiques extraordinaires que sont les tympans du jugement dernier. Donc le jugement dernier s'en tient au fait. Il n'invente rien, il n'ajoute rien. On veut simplement savoir qu'est-ce qui s'est passé chez celui qui avançait ainsi. Et c'est très motivant, à mon avis, de recevoir cela, parce que je me dis, une bonne vie, c'est peut-être pas si compliqué que ça, finalement. Le chemin m'apprend ça, oui. Par Brassens ou par un autre, ça importe peu. Il me reste quoi à faire? Eh bien, il me reste à remercier. Donc, puis, ben, évidemment, je retrouve aussi, parce que je reviens, Denis, avec votre question, est-ce qu'il y a eu d'autres illustrations de la générosité en chemin? Oui, bien sûr, il y en a d'autres illustrations importantes. Par exemple, il y a la générosité des associations qui reçoivent les gens sur Compostelle.
Alors Yves Brassens, c'est magnifique, l'architecture romane, le message est clair, bien sûr. Et vous, lors de vos chemins, vous en avez bénéficié de la générosité?
Je comprends donc. Je dirais que j'en ai bénéficié de plusieurs façons. Premièrement, j'ai souvent été accueilli dans des familles.
Ah oui.
Ouais. Sur les chemins moins fréquentés, c'est pas rare qu'on est accueilli dans des familles. Il y a des chemins qui sont construits comme ça, de Genève au Puy-en-Velay, par exemple. C'est beaucoup de familles qui reçoivent. C'est souvent des pèlerins, d'anciens pèlerins, qui ont bénéficié de la générosité et qui veulent redonner. à d'autres.
Ah oui.
Et donc, c'est assez formidable parce qu'ils nous accueillent. Bon, la politesse fait que j'essaie de les prévenir la veille ou l'avant-veille de mon arrivée possible. Et là, ben, ils me reçoivent en toute simplicité. Donc, ça se passe comment? Parle-nous de toi, parle-nous de ton chemin, pourquoi tu marches, as-tu des problèmes, où vas-tu être demain, on va prévenir des gens de ton arrivée, etc. Là, tu vas coucher dans la chambre d'un fils qui n'est plus avec nous parce qu'il est parti voler de ses propres ailes ou de notre fille, ainsi de suite. À quelle heure tu souhaites partir demain matin, ton petit déjeuner? Ils sont complètement attentifs et centrés sur nous.
Mm-hmm.
Hein, toutes ces questions-là, sont des questions qui nous intéressent. Et si on est blessé, ils vont nous aider. Et, ils savent bien qu'on a fait 25 à 30 kilomètres ou 20 kilomètres, etc., qu'on est dans la fatigue. Donc, cette générosité-là, elle est tout à fait particulière parce qu'ils nous donnent accès aussi à leur monde intérieur. On voit sur les murs les photos, on voit dans les cabinets de curiosité des souvenirs de leur voyage, etc. Ils se présentent tels qu'ils sont dans leur maison. Alors, ça c'est vraiment formidable. Et puis, là, comme dans d'autres lieux, parfois dans des villages, parfois ce sont des monastères, parfois ce sont des organismes privés, il y a aussi des accueils de pèlerins qu'on appelle participation volontaire aux frais ou donativo. C'est-à-dire que tu es invité à... tu es reçu gratuitement... c'est ça le sens du donativo. Mais si tu le veux, tu pourras demain laisser un don. Ou ce soir, tu pourras laisser un don dans une tirelire, dans une cassette, etc. Et ça, ça t'appartient. Et là, ce don-là, que le pèlerin ou le randonneur est invité à faire, il peut ne pas le faire. Mais j'ai vu aussi chez plusieurs une difficulté à vivre avec ça. Ben pourquoi? Parce que notre culture est une culture de transaction. Elle est une culture de consommation. Oui. Et donc, on essaie toujours d'estimer le prix d'un service. Mais ce n'est pas ça l'esprit du donativo. L'esprit du donativo, c'est « j'ai été reçu aujourd'hui ». Gratuitement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que demain d'autres soient reçus aussi? Et donc, ce que je laisse, c'est pour, à mon tour, contribuer à la générosité pour ceux qui viennent. Mais il ne s'agit pas de savoir quel est le prix, qu'est-ce que ça vaut. Ça, c'est une transaction commerciale. Mais, alors, donc, le donativo, c'est une pratique qui est moins forte aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans, mais qui est encore là et qui est vraiment axée sur la générosité. Tu donnes et ça t'appartient. Oui. Et puis, on ne veut pas savoir combien tu donnes. Il y a des endroits où ils vont ouvrir leur cassette une fois par mois, mais ils ne savent pas qu'est-ce que Yves de Belval a laissé, ils ne le savent pas, qu'est-ce que le précédent a laissé, ils ne le savent pas. Ils ne veulent pas le savoir, mais ils vont l'utiliser pour soit des œuvres caritatives ou pour soit recevoir d'autres pèlerins. Donc ça, c'est une pratique vraiment de la générosité sur les chemins.
Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la générosité qui commencerait probablement, comme vous l'avez décrite, par une générosité matérielle, hein? La faim, la soif, en fait, on en a parlé un petit peu plus tôt, là. Est-ce qu'on commence d'abord par une générosité matérielle?
Oui, c'est par... je pense que j'ai éprouvé... et que beaucoup d'autres ont éprouvé la générosité en chemin, d'abord dans la satisfaction des besoins matériels. On va retrouver à certains endroits, au bord du chemin. Des fois, le chemin, c'est un sentier, là. Parfois, c'est à l'orée même d'une forêt ou près d'une maison de ferme. Mm-hmm. Des gens qui ont installé un auvent quand il fait chaud, et puis une table, et là, il y a de l'eau fraîche, et il peut y avoir des biscuits ou quelques fruits. Si c'est la saison des figues, des plats de figues. Si c'est la saison des cerises, un plat de cerises, ou peu importe. Et puis, ben là, c'est à la disposition de qui passe. Il y a toujours cette boîte qui est là. Et puis, ben, tu laisseras ce que tu pourras ou ce que tu voudras. Mais ça, c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de satisfaire ton besoin. Et je me souviens d'une fois, je marchais avec un de mes fils et on est arrivé à un de ces endroits et on a dit, ah, quel cadeau incroyable! Quel don incroyable! Parce que là, il faisait une température d'enfer. Et là, il y avait des auvents, il y avait tout ce qu'il fallait pour nous protéger de l'extrême chaleur. Et il y avait des chaises pour nous asseoir. Vous savez, Denis, ce que c'est qu'une chaise sur un chemin, quand vous avez marché 8, 10, 12, 15 kilomètres...
Je peux imaginer, oui.
Et là, on a eu cette bienveillance, voilà, la générosité du côté de oui. La bienveillance. Oui. À un endroit, c'était marqué pèlerin, ce banc est pour toi, là. Profites-en, oui. Repose-toi, je ne pense qu'à toi. Sur 20 kilomètres, c'était le seul endroit où je pouvais vraiment m'asseoir. À un autre endroit, ils avaient construit un abri. Je passais là, il pleuvait, hein. C'est le seul endroit où sur une journée de 25 kilomètres, j'ai pu m'asseoir. Et bon, personne n'obligeait ces gens-là à construire un abri pour les pèlerins. Les manifestations, donc, de la générosité dont je peux bénéficier sont nombreuses. Et puis, ça va plus loin, évidemment. Il y a la générosité de ce qu'on appelle les hospitaliers.
Les hospitaliers.
Ouais, les hospitaliers. Mm-hmm. C'est un vieux mot, hein? C'est un vieux mot en français, l'hospitalité, et celui qui offre l'hospitalité, il est hospitalier à mon endroit, et on les appelle sur les chemins de Compostelle les hospitaliers ou les hospitalières. Ce sont des gens qui consacrent entre une semaine et six mois par année pour recevoir et accueillir les pèlerins. Alors là, en quoi consiste la générosité? Eh bien, je donne... La générosité, Denis, ça tient à un don quantifiable. Eh bien, je donne une semaine.
Mm-hmm. Ah oui.
Je donne une semaine. Je donne jusqu'à six mois. José Luis à Tos Santos, lui, c'est six mois par année. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accueille les pèlerins. Et accueillir, c'est quoi? C'est de le recevoir tel qu'il est. Il est fatigué, épuisé. Il n'a pas envie de jaser. Bon, tout ce qu'il veut savoir, c'est où est la douche, où est le dortoir. Mais on a un verre d'eau fraîche et parfumée pour lui. Là, vous savez, ces eaux dans lesquelles on met un peu de menthe, etc.
Oui.
Bon, qui est très rafraîchissante, etc. On l'accueille tel qu'il est. On n'essaie pas de lui dire, voici, là, il y a des règles ici, etc. On réglera les problèmes matériels plus tard. Est-ce qu'il y a un coût à payer? Parce qu'il y a des endroits aussi où il y a un coût à payer, mais on peut être généreux quand même dans cette façon de donner gratuitement son temps à l'autre. Donc, ça aussi, c'est une forme de générosité.
Vous m'aviez parlé aussi de la générosité de la présence dans une maison, par exemple, ou là où vous êtes hébergé. J'ai trouvé le concept intéressant.
Oui, oui.
On partage la présence dans cette maison.
Oui, oui. On est... On vit... avec ceux qu'on accueille, ce temps de séjour. Donc, c'est comme ça que je peux dire qu'on partage la présence. Et puis, vous savez que à part vous et moi, Denis, il n'y a personne de parfait. Donc,
oh là là.
donc la générosité n'est pas nécessairement parfaite. Et puis celle que je pourrais exercer en retour n'est pas non plus nécessairement parfaite. Mais donc, elle ne sera pas peut-être par million, elle va peut-être être par quatre bouts de bois ou par quatre bouts de pain. Oui. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup plus que rien. Dès que quelque chose existe, c'est beaucoup plus que rien.
Mm-hmm.
Il faut l'accueillir comme ça aussi.
Alors, dans la générosité, il y a la personne qui reçoit et il y a la personne qui donne aussi.
Oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? La générosité d'une personne qui donne.
Oui, mais il y a quelque chose qui les unit et qui devient ce que j'appelle la fraternité.
Mmh.
Et qui devient, à mes yeux, ce que j'appelle la fraternité. Et donc, c'est plus ce lien-là qui unit, qui m'apparaît être fondamental. La générosité, elle crée une forme d'égalité Elle égalise ou elle tend à égaliser les rapports entre le donateur et celui qui est donné, ne serait-ce que parce que dans son geste, le généreux reconnaît la dignité de celui qu'il reçoit. Mmh. Il ne peut pas y avoir dans la... Je l'ai vécu en chemin. Les gens qui nous accueillent ne sont pas hautains. Ils sont simples. Ils ne sont pas là à dire, « Écoute, si je n'étais pas là, tu serais dans le malheur. Hein? Alors, dis-moi merci. » La oui. générosité, il y a quelque chose dans ça qui est silencieux, surtout dans la pratique donativo, qui est, je vais accueillir ton merci, mais je ne le sollicite pas. L'être généreux, il est désintéressé. Je l'ai mentionné antérieurement.
Mm-hmm. Est-ce qu'on parle alors de gratitude qui rejoint la générosité? Il y a un lien entre les deux. Là.
Tout à fait. Tout à fait. Le oui, il s'exprime aussi bien, le merci, pardon, il s'exprime aussi bien verbalement qu'en parole. Et puis, il y a donc ceux qui ont marché, qui sont hospitaliers, qui exercent la générosité. Et puis, il y a aussi d'anciens pèlerins qui ont créé des associations d'amis des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Alors ça, c'est une autre forme de générosité dont j'aimerais parler. La générosité qui est celle des associations. Au Québec, on a une de ces associations qui a gagné l'an dernier, d'ailleurs, un prix international de la meilleure association
au monde.
Oui, absolument, absolument. L'association du Québec à Compostelle. À ne pas confondre là, avec une entreprise privée qui a un nom à peu près semblable. C'est, peut-être qu'on pourrait mettre sur le site, je ne sais pas s'il y a un site
tout
internet
fait,
où on pourrait mettre
fait.
La référence, oui. Mais on pourrait mettre la référence. Donc, l'Association du Québec à Compostelle s'est créée il y a entre 20 et 25 ans maintenant par d'anciens pèlerins avec bénévoles. Ça a accueilli et aidé près de 20 000 Québécois à préparer et vivre leur chemin de Compostelle. Mais ce sont tous des bénévoles dans 8 régions du Québec.
Oui, c'est alors, formidable. Oui. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé à l'émission à quelques reprises de l'association qui fait un bon travail pour ceux et celles qui veulent participer au Compostelle.
Alors, quand on fait le chemin, on les retrouve dans tous les pays. Quand j'ai préparé mon chemin pour la Hongrie, j'ai communiqué avec l'association hongroise. Hmm. C'est des bénévoles, là aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont aidé à trouver mes logements. Ils ont prévenu les Hongrois chez qui j'allais loger de ma venue. Et ils font plus que ça. C'est eux qui sont responsables de baliser le chemin. Vous savez, quand on marche sur ces chemins-là, je disais, on est dans une situation de vulnérabilité. Je l'ai mentionné à quelques reprises. Mais une des situations où on est vulnérable et où on a besoin de l'aide des autres, c'est qu'on ne sait pas trop où aller.
Ah oui. Ah oui.
Il passe par où, ce chemin-là?
Les balises ont disparu?
Non, justement, il y a des balises, mais elles ne sont pas venues du ciel.
Ah, c'est ça, voilà.
Il y a des gens qui ont mis les balises, il y a des gens qui entretiennent les chemins, et ce sont ces membres de ces associations européennes qui entretiennent ainsi les chemins. Donc, en France et ailleurs, il y a cette générosité d'anciens pèlerins, et c'est des actions simples qu'on ne voit pas, hein. On les voit. On voit la balise qu'ils ont posée. On voit le chemin qu'ils ont nettoyé. Parce que s'il y a eu une tempête, il y a des arbres qui sont venus obstruer le chemin, etc. Un jour, je marchais sur une voie où il y avait eu une tempête incroyable. Alors, le chemin était complètement illisible parce que les arbres étaient tombés. Mais il y avait justement des membres de l'association locale qui était sur place pour me dire, bon, ben là, on va vous montrer par où passer pour les 300 prochains mètres parce que là, il y a un problème sérieux, c'est que la tempête a décimé la forêt et ainsi de suite.
Yves, le temps file. Ouais. J'ai le temps pour une dernière question. sur la générosité. Est-ce que la générosité, ça s'apprend? Est-ce que le chemin aide justement à apprendre, à apprivoiser la générosité?
Oui, le chemin apprend à apprivoiser la générosité. Il y a un certain nombre de dispositions qui le favorisent, qui favorisent cet apprentissage-là. La première chose, je dirais, c'est qu'il faut accepter qu'on soit généreux à son endroit. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler une simplicité, l'accueil. Il faut l'accueillir, cette générosité-là. Ça, c'est une chose. Il y a comme aussi une situation particulière dans la vie. Si vous avez été jeune, objet de l'attention des autres, je pense que c'est plus facile d'être généreux. Mais j'ai rencontré des gens qui ont eu une enfance épouvantable et qui étaient aussi des gens généreux. Je les ai rencontrés en chemin. Et là, je ne sais pas comment ils l'ont appris, mais ils l'ont nécessairement appris.
Donc, et ils l'ont pratiqué sur le chemin.
Eh bien, voilà. Alors, oui. Je ne sais pas trop comment ça s'apprend, mais je vois des gens qui ne l'ont pas eu facile au point de départ et qui sont des gens généreux. Ils ont bien dû l'apprendre quelque part.
Oui. Yves, merci beaucoup encore une fois pour ces paroles inspirantes. Nous avons discuté de simplicité, de paroles, de silence, et nous avons amorcé la discussion sur la générosité. Encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et nous espérons vous revoir ou vous entendre bientôt.
Un plaisir.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et en rediffusion les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées. Aussi sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Merci beaucoup à notre globe-trotter philosophe de nous avoir entretenu des chemins et de leurs vertus, aujourd'hui du dernier volet de la simplicité au concept de la générosité. Merci également à notre collaborateur complice à la technique, Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse sur cette citation de Robert Langdon, qui, en 1522 plutôt, écrivait au retour d'un pèlerinage de Compostelle, « Pour celui qui se lance avec passion dans une sainte entreprise, l'effort devient un jeu et le long chemin paraît court. » Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.